Luc chapitre 10 ce matin. Luc chapitre 10. Et ceci, on va dire, sera un peu la suite du message de dimanche dernier. Vous savez, tout comme vous, probablement, depuis les attentats il y a une dizaine de jours, je réfléchis beaucoup à ce qui est arrivé, notre réponse en tant que chrétien, nous en avons parlé la semaine dernière, et en réfléchissant sur cela, je ne pouvais pas m'empêcher à revenir sur cette histoire que Jésus raconte, qui nous est relatée dans ces versets, une histoire que nous connaissons bien, dans les grandes lignes nous pourrions citer. Et même les gens du monde, quand on leur parle du bon samaritain, même les gens qui connaissent pas très bien la Bible, savent un peu de quoi il s'agit. Et je crains que notre familiarité avec cette histoire nous fait passer à côté de quelques vérités essentielles pour nous aujourd'hui. Alors permettez-moi de lire ces versets, Luc chapitre 10, verset 25 jusqu'au verset 37, et découvrons, redécouvrons cette histoire, le contexte. Alors suivez avec moi alors que je lis ces versets à partir de verset 25. Un docteur de la loi se leva et dit à Jésus pour l'éprouver, « Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Jésus lui dit, « Qu'est-il écrit dans la loi ? Qui lis-tu ? » Il répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. » « Tu as bien répondu, lui dit Jésus, fais cela et tu vivras. » Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus, « Et qui est mon prochain ?» Jésus reprit la parole et dit, « Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu des brigands qui le dépouillèrent, le chargèrent de coups, et s'en allèrent, le laissant à demi-mort. Un sacrificateur qui, fortuitement, descendait par le même chemin, ayant vu cet homme, passa outre. Un lévite, qui arriva aussi dans ce lieu, l'ayant vu, passa outre. Mais un samaritain qui voyageait, étant venu là, fut ému de compassion lorsqu'il le vit. Il s'approcha et banda ses plaies en y versant de l'huile et du vin. Puis il le mit sur sa propre monture, le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Le lendemain, il tira deux deniers, les donna à l'hôte et dit, « Aie soin de lui et ce que tu dépenseras de plus, je te le rendrai à mon retour. Lequel de ces trois te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu des brigands ?»« C'est celui qui a exercé la miséricorde envers lui, » répondit le docteur de la loi. Et Jésus lui dit, « Va, et toi, fais de même. » Prions, s'il vous plaît. Oui, Seigneur, nous remettons ces quelques instants entre tes mains. Nous demandons ta grâce, ton aide, pour comprendre ta parole, que tu touches notre cœur, Seigneur, que nous ne soyons pas indifférents, que tu continues de nous transformer par cette parole puissante et que tu reçois toute la gloire et toute l'honneur pour cela. Entendons-nous, prions. Amen. Alors, dans ce passage, cette histoire que Jésus raconte, qui est pour nous tellement familière, vraiment, on l'entend, je peux dire pour moi-même, je l'ai entendu depuis tout petit, avec des applications différentes, diverses. Et comme j'ai dit, puisque cette histoire, nous la connaissons si bien, nous passons à côté, je crains, du contexte, pourquoi même Jésus ici raconte cette histoire. Cette histoire n'est pas isolée, non, elle a un contexte, et Jésus répond à une question, comme nous avons vu dans ce verset, et juste dans ces versets, et justement ce matin, une question sur laquelle j'aimerais que nous méditions ensemble, et qui aussi devrait nous faire réfléchir pendant toute notre vie, c'est comment puis-je manifester concrètement l'amour aux autres? Comment puis-je manifester concrètement l'amour aux autres? Parce que, surtout en tant que chrétien, nous savons que c'est quelque chose que nous devons faire. L'évangile de Jean nous montre très bien que Jésus commande à ses disciples qu'ils s'aiment les uns les autres. Et non seulement entre eux, mais aussi aux autres. C'est-à-dire tous ceux qui ne faisaient pas partie de leur groupe. Jésus a annoncé ce message d'amour. Et ce n'était pas simplement en parole, mais c'était en action. Et en tant que disciples de Jésus-Christ, si nous sommes sauvés par la foi, nous avons le devoir aujourd'hui de manifester l'amour aux autres. Nous le savons, mais la question se pose, comment concrètement? Et nous avons quelques éclaircissements, quelques aides qui sont montrées dans ce passage. Mais avant de voir cela, déjà cette idée de manifester l'amour, nous savons que cela ne vient pas naturellement. Si c'est une réaction naturelle, Jésus-Christ n'aurait pas tant insisté sur le fait que nous devons le faire. C'est parce que manifester l'amour envers son prochain est quelque chose qui n'est pas naturel que Jésus y prend le temps ici d'expliquer cela. Et il y a des obstacles. Déjà, il y a notre propre péché en nous. La nature pécheresse qui nous fait penser à nous et à nos besoins, à nos soucis, à nos problèmes, les difficultés par lesquelles nous passons. Et dans quelque sorte, c'est l'amour propre trop élevé. Je pense trop à moi-même. Je prends trop de temps pour moi-même. Je me focalise intérieurement et je ne me focalise pas sur les autres. Et ici, nous voyons que ce docteur de la loi, comme il est appelé au verset 25, avait un peu cette habitude. Il avait cette réflexion, ce réflexe, si on peut l'appeler, à penser à lui-même. Alors, verset 25, il dit « Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» En soi, pas une mauvaise question. Qui veut hériter la vie éternelle? Je crois que tout le monde. Qui veut aller à la condamnation éternelle? Pas grand monde. Personne, probablement. À moins qu'il soit totalement tordu. Mais en général, les hommes préfèrent la vie à la mort. Et dans la question de cet homme, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Pas forcément quelque chose de mauvais là-dedans. Mais lorsque nous comprenons tout son raisonnement, nous comprenons que cette question était motivée par l'orgueil. Parce que déjà, début du verset 25, un docteur de la loi se leva et dit à Jésus pour l'éprouver. Ici, il ne recherche pas une vraie réponse de la part de Jésus. Et puis, verset 29, lui voulant se justifier, parce qu'il savait qu'il ne faisait pas ces choses. Donc, nous voyons que sa requête n'est pas sincère. Il se focalise simplement sur lui-même. Il veut se manifester, il veut montrer son intelligence, il veut se mettre en avant. Et tout de suite, nous voyons cette attitude et nous la condamnons. Et nous arrivons très facilement à voir cela dans les autres. Sommes-nous aussi promptes à reconnaître cette attitude en nous-mêmes? Donc, déjà, cet homme manifeste un amour propre qui est trop élevé. Et cela l'empêche à se donner pour les autres. Cela l'empêche à manifester l'amour que Dieu veut envers les autres. Mais deuxième obstacle, et ceci est tellement frappant. Vous l'avez peut-être constaté un peu inconsciemment. Verset 25, qui pose cette question, « Qu'est-ce que je dois faire pour hériter la vie éternelle ?» Et la réponse de Jésus, comme il avait l'habitude de faire, il pose une question en réponse. Il demande à cet homme, ben, qu'est-ce qui est écrit dans la loi? Et verset 27, de manière tout à fait étonnante, cet homme répond bien. Sa réponse, elle est impeccable, parfaite. C'est exactement la réponse qu'il faut. Aime Dieu de tout son cœur et aimer son prochain comme soi-même. Jésus avait déjà expliqué, plus tôt dans son ministère, que c'est sur ces deux commandements que dépendent toute la loi et les prophètes. Et que c'était les deux plus grands commandements. Et si on arrivait à accomplir ces deux commandements à la perfection, on aurait la vie éternelle. Donc cet homme, il montre ainsi une connaissance intellectuelle. Il connaît la bonne réponse. Jésus lui dit, que dit la Bible? Il dit, dans la loi, pour eux, c'était la loi de Moïse, l'Ancien Testament, pour eux, c'était leur Bible. Et Jésus dit, mais quelle est la réponse biblique? Et cet homme répond juste. Mais nous voyons qu'il y avait un problème avec son cœur. Et l'obstacle auquel cet homme était confronté, nous fait chuter parfois aussi. Parce que nous connaissons la Bible. Certains peut-être plus que d'autres, mais dans les grandes lignes, nous connaissons la Bible. Nous pouvons citer tel ou tel verset. Nous savons qu'il faut aimer Dieu de tout son cœur. Nous savons qu'il faut aimer son prochain. Nous connaissons les commandements. Nous savons ce que Dieu attend de nous. Et si nous ne faisons pas attention, en tant que chrétiens, si nous le sommes, nous nous laissons arrêter par cela. En disant, je connais les bonnes réponses, cela est suffisant. Et mes parents disaient à mes frères et moi, le plus grand danger de grandir dans une famille chrétienne, c'est de connaître toutes les bonnes réponses sans avoir un changement de cœur. Et ils avaient tout à fait raison. Et cet homme, ce docteur de la loi, spécialiste, un docteur, c'est quelqu'un qui a fait des études, qui connaît très bien son domaine. Ici, c'est un docteur de la loi, mais un docteur en médecine. On va chez lui parce qu'on lui fait confiance. Il a fait des études. Il a fait ses preuves. Et ici, ce docteur de la loi, qui a répondu juste, qui savait exactement ce qu'il fallait faire, manifestement, ne le faisait pas et ne voulait pas le faire. Parce que verset 29, regardez. Mais lui, une fois que Jésus va lui répondre, lui, voulant se justifier. Et nous nous en prenons parfois aux Lévites, aux sacrificateurs, dans ce passage. Mais est-ce que nous prenons le temps de regarder l'attitude de ce docteur de la loi avec lequel toute cette histoire commence? Et reconnaissons-nous dans cet homme? Nous allons dire, oui, mais ça c'était un docteur de la loi, comment est-ce qu'il aurait pu avoir une telle attitude? Comment est-ce qu'il aurait pu être si indifférent? Comment est-ce qu'il a pu être aussi aveugle, orgueilleux? Comment est-ce qu'il aurait pu être si proche de la vérité, sachant intellectuellement ce qu'il fallait, avoir Jésus-Christ devant les yeux et avoir une telle attitude? Mais non, c'est pas possible. Et on est prompt à le condamner en disant, il aurait dû répondre différemment, il aurait dû tout de suite changer son attitude, s'humilier, reconnaître son tort. Oui, et nous, à sa place, qu'aurions-nous fait? Nous, aujourd'hui, lorsque nous sommes confrontés avec des situations similaires, que faisons-nous? Cherchons-nous à nous justifier comme cet homme qui savait toutes les bonnes réponses? On pouvait lui poser des questions sur n'importe quel passage de l'Ancien Testament. Je suis certain que cet homme aurait pu répondre. Mais ce n'est pas pour autant que cela a produit un réel changement dans sa vie. Et il cherchait à se justifier. Il cherchait un moyen de ne pas faire ce qu'il venait de dire. Et ici, nous avons une image de ce que nous pourrions être. Si nous ne faisons pas attention, nous risquons de ressembler à cet homme. et de passer à côté de l'amour que Dieu veut que nous manifestions envers les autres. Alors, à cette question, tout à fait insincère, orgueilleuse de cet homme, qui est mon prochain, Jésus va raconter cette histoire du bon samaritain. Et cette histoire ne nous choque pas, je suis convaincu, autant que les gens de l'époque de Jésus. Au verset 31, verset 32, une fois que cet homme qui descend de Jérusalem à Jéricho, il tombe mal, un sacrificateur, un lévite, les gens respectés de la communauté, si quelqu'un allait faire quelque chose, si quelqu'un allait faire le bien, c'était probablement ces hommes. Mais l'un et l'autre ne font rien. Ils se sentaient mal, peut-être pour cet homme. Ils se sont dit, ah, que c'est dommage. Peut-être qu'ils avaient dans leur pensée, si seulement il ne serait pas passé par ici, cela ne lui aurait pas arrivé, ne lui serait pas arrivé. C'est un peu de sa faute, il n'aurait pas dû descendre à ce moment-là, il n'aurait pas dû prendre ce chemin. Si seulement il avait fait telle ou telle chose. Et si nous sommes honnêtes, et si je suis honnête, n'est-il pas vrai que parfois nous avons ce même raisonnement? Quelqu'un est dans le besoin, quelqu'un va vraiment mal, et au lieu de faire ce que nous allons voir dans la suite de ce message, on se dit, ah, c'est dommage, ah, c'est triste, mais bon, vous savez, si cette personne n'avait pas fait tel ou tel choix, si cette personne ne serait pas allée dans tel ou tel endroit, si telle ou telle personne n'avait pas dit telle ou telle chose, et cela est peut-être vrai. Peut-être cette personne subit les conséquences de ses choix, de ses actions, de ses paroles. Peut-être cette personne a été inconsciente. Peut-être cette personne a fait de mauvais choix. Cela devrait-il influencer l'amour que je manifeste? Jésus manifestement ici dit non. Les personnes qui auraient dû faire quelque chose, les personnes que dans cette société tout le monde s'attendait à faire le bien, à manifester l'amour, n'ont rien fait. Et au lieu que ce soit un lévite, un sacrificateur, un juif, non, dans les versets qui suivent, nous voyons que c'est un samaritain. Et imaginez les juifs qui entendaient cela, leurs ennemis. Leurs ennemis, ils considéraient les samaritains comme leurs ennemis. Un de leurs ennemis s'arrête et s'occupe de cet homme. Non, mais c'est pas possible. Imaginez-vous l'indignation des juifs qui entendaient Jésus. Peut-être ils le manifestaient sur leur visage, peut-être ils le pensaient en eux-mêmes, là Jésus il va trop loin. Ah non, là cela ne pourrait jamais arriver. Et pourtant Jésus dit oui. C'est aussi flagrant si on refuse de faire le bien envers ceux qui sont sur notre chemin. C'est aussi grave, c'est aussi flagrant que ce que nous voyons dans ces versets. Du coup, cet homme, ce docteur de la loi qui posait cette question, ceux qui entendaient Jésus, ils avaient cet obstacle d'un amour propre trop élevé, d'une connaissance intellectuelle simplement, et non pas un réel changement de cœur, et puis bien sûr, ils avaient l'orgueil qui était là. Cet orgueil qui les empêchait de voir les autres tels qu'ils sont, de les voir comme Dieu les voit. Et nous faisons face aux mêmes obstacles aujourd'hui. Et ces obstacles peuvent sembler insurmontables. On se dit, mais avec une telle condition, comment est-ce que moi, en tant que chrétien aujourd'hui, suis-je censé surmonter cela et vraiment manifester l'amour de Dieu autour de moi? Parce que imaginez-vous la honte des Juifs qui entendaient l'histoire de Jésus, deux Juifs respectés, un sacrificateur, un lévite, qui passe à côté, qui vont même de l'autre côté de la rue, c'est l'idée ici. L'un d'entre eux, il s'approche un peu, mais bon, il va passer outre. Traverse même la rue pour éviter cet homme qui a subi ceci. Et imaginez-vous la honte quand c'est un Samaritain. Et pour nous aujourd'hui, la honte de tous les gens sur la terre qui devraient faire le bien, les chrétiens devraient être au premier rang. Mais combien de fois est-il vrai que ce sont d'autres associations, ce sont même des inconvertis qui manifestent plus d'amour envers les plus démunis, envers les gens qui vont mal, que les chrétiens. Les inconvertis, parfois, dans leurs actions, manifestent un certain plus à l'amour que certains chrétiens. Quelle honte pour nous, quelle honte pour moi. Je me réclame du nom de Dieu, de Jésus-Christ, et je ne manifeste pas l'amour. Et ici, ceux qui ont entendu Jésus devaient être dans l'indignation, la confusion, la honte. Mais Jésus, à travers cette histoire, montre comment nous pouvons manifester. Il nous donne l'exemple de ce Samaritain. Et la toute première chose pour nous, en tant que chrétiens, c'est de continuer d'être remplis de l'amour de Dieu. C'est la clé de tout. Ce docteur de la loi, il avait son amour propre. Il pensait à lui-même. Ses yeux étaient tournés vers l'intérieur. Mais en tant que chrétiens, si nous voulons pouvoir manifester l'amour envers les autres, nos yeux doivent être sur Jésus-Christ, sur Dieu lui-même. Et quand ils le seront, nous serons remplis de l'amour de Dieu. Notre amour propre n'est pas suffisant pour aller vers les autres. Il faut être rempli de l'amour de Dieu. Et ce Samaritain, c'était pas simplement par charité, c'est pas parce qu'il se sentait mal, c'est pas parce qu'il s'est dit « Ah, quel dommage cet homme, je vais faire quelque chose ». Non, manifestement, il était animé par un esprit autre que lui-même. Parce que non seulement les Juifs considéraient les Samaritains comme leurs ennemis, mais les Samaritains considéraient les Juifs comme leurs ennemis. Et Jean chapitre 4 nous montre que les Samaritains étaient étonnés même lorsque les Juifs parlaient avec eux. D'autant plus que quelqu'un fasse ce que cet homme a fait. Et être rempli de l'amour de Dieu nous permettra de commencer à manifester l'amour autour de nous. Sans cet amour d'en haut, comme Jacques va l'appeler, et que Paul va décrire dans la première épître aux Corinthiens chapitre 13. Sans cet amour, nous n'irons pas bien loin. Mais aussi, en plus d'être rempli de l'amour de Dieu, il faut avoir les yeux ouverts. Et je dois confesser que je suis coupable dans ce domaine bien plus souvent que je ne voudrais l'admettre. Parce que avoir les yeux ouverts ne veut pas simplement dire avoir les yeux physiques ouverts. Parce que ces trois hommes, le sacrificateur, le lévite, le samaritain, ont vu exactement la même chose au niveau physique. Tous les trois ont vu un homme au bord de la route, à moitié mort, qui saignait, probablement inconscient. Tous les trois ont vu la même chose. Tous les trois avaient les yeux physiques ouverts. Mais un seul avait les yeux de son cœur ouverts, était sensible à ce qu'il a vu. Et je dois admettre que plus d'une fois, que ce soit en marchant, en ville, dans les transports en commun, en magasin, je suis tellement préoccupé avec ce que moi je dois faire que même si j'ai si j'ai les yeux physiques ouverts et je vois ce qui se passe autour de moi, je reste totalement indifférent. Je suis tellement focalisé sur ma liste de choses à faire, sur ce que je dois accomplir, sur peut-être mes problèmes, que je ne vois pas autour de moi ce que moi je peux faire pour les autres. Mes yeux physiques sont ouverts, mais les yeux de mon cœur sont totalement fermés. Et ainsi, je reste insensible. Et je dois demander à Dieu d'ouvrir les yeux de mon cœur, de me laisser toucher avec, oui, la misère qui est autour de moi. Parce que tout comme vous, je vois la misère. Il y a de la misère autour de nous. Il y a les gens dans le besoin, et de plus en plus. Et est-ce que cela m'affecte, ou est-ce que je ferme, peut-être physiquement, les yeux, et aussi les yeux de mon cœur? Tous ces trois hommes ont vu la même chose physiquement, mais ce n'est que le Samaritain qui avait les yeux du cœur ouverts pour être sensible et pour faire quelque chose. Mais en plus de cela, ben, en tant que chrétien, il faut être prêt à être dérangé. Et cela nous embête. Les gens, ils sont embêtants, n'est-ce pas? Si on est honnête, soyons honnêtes. Les gens sont embêtants. Okay? Moi, j'aime bien travailler avec l'informatique, les ordinateurs, etc. Et oui, parfois, c'est embêtant, parce que parfois, c'est complexe, et il faut chercher à arranger ce qui ne va pas. Mais savez-vous, un ordinateur ne dispute jamais. Un ordinateur ne répond jamais de travers. Parce que un ordinateur ne redonne que simplement ce qu'on lui a redonné. Et l'ordinateur, l'informatique, dans un sens, est beaucoup plus facile que d'avoir affaire à des êtres humains. Les êtres humains, ils sont embêtants, ils sont complexes. Si nous sommes honnêtes, nous le savons. Et les êtres humains peuvent, et parfois, nous dérangent. Il faut l'admettre. Qui aime être dérangé? Personne. Non, on veut que tout soit bien planifié, ceci arrive à tel ou tel moment, j'ai toute mon organisation, mon agenda pour la semaine, ceci va se passer à ce moment-là, et que personne ne vienne m'embêter, déranger ce plan, gare à celui ou à celle qui vient essayer d'introduire quelque chose dans mon emploi du temps. Là, j'exagère, mais peut-être à peine. Et cet homme, le Samaritain, s'est laissé déranger par cet homme qui est tombé entre les mains des brigands. Tous les trois, le sacrificateur, les lévites, allaient quelque part. Sacrificateurs, lévites, eux, ils sont descendus de Jérusalem. Probablement, ils avaient accompli leur devoir religieux, retourné chez eux. Ils avaient peut-être la famille qui attendait à la maison, avaient des responsabilités. Ils étaient peut-être même envoyés en mission. Mais ils allaient quelque part. Et ils ne se sont pas laissés déranger par cet homme. Ils avaient leur plan, et même si quelqu'un était dans le besoin, dans la détresse, eux, leur responsabilité, ce que eux ils faisaient était plus important. Alors que le Samaritain, lui aussi, descendait de Jérusalem. Peut-être il rentrait chez lui. Peut-être il allait rendre visite à des amis. Il avait lui aussi peut-être une famille qui l'attendait à la maison. Et là, il s'est arrêté. Il s'est laissé déranger par cet homme. Il a vu cet homme au bord de la route et il s'est dit, je ne peux pas laisser ça passer. Oui, j'ai mes responsabilités, mais là, il y a une priorité. Je ne peux pas rester indifférent. Je vais me laisser déranger. Et en tant que chrétien, si nous voulons manifester concrètement l'amour aux autres, il faut être prêt à être dérangé. Et ça fait mal. Parce que comme j'ai dit, nous ne voulons pas être dérangés. Si nous sommes honnêtes. Et il faut demander à Dieu de nous aider à permettre aux autres, parfois, oui, de nous déranger, de ne pas être tellement fermé, tellement rigide, que rien n'intervient, nous interrompre. Et puis, associé à cela, En plus d'être prêt à être dérangé, il faut être prêt à sacrifier. Et ça aussi, on est prêt à aider tant que cela ne nous coûte pas, n'est-ce pas? Encore, si nous sommes honnêtes, notre cœur humain réfléchit de cette façon. Ce sacrificateur, ce lévite, n'ont pas aidé. Pourquoi? Une des raisons est probablement parce que cela allait coûter. Cela allait coûter et il n'était pas prêt à sacrifier. Et pourtant, le Samaritain, oui, il était. Verset 33. Un Samaritain qui voyageait, étant venu là, fut ému de compassion lorsqu'il le vit. Il s'approcha, banda ses plaies, y versant de l'huile et du vin, puis le mit sur sa propre monture, le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Le lendemain, il tira 2 deniers, c'est-à-dire l'équivalent de 2 jours de travail, les donna à la hôte et dit, « Aie soin de lui, et ce que tu dépenseras de plus, je te le rendrai à mon retour. » Cet homme a sacrifié pour cet homme battu. Le Samaritain, il n'a pas simplement dit, « Ben, sois guéri, va mieux, je prie pour toi, mon frère, que le Seigneur t'aide, que le Seigneur te bénisse. » Ce sont de bonnes choses, il faut les dire, mais si on s'arrête là, ce n'est pas assez. Pas dans tous les cas, en tout cas. Et ici, cet homme, il prend de ses propres ressources, il prend de son propre temps, il va loger cet homme battu à l'hôtel, et là, au moins pendant quelques jours. Nous ne savons pas exactement combien de temps il y est resté, mais comme j'ai dit, ces 2 deniers, c'était l'équivalent de 2 jours de travail. Donc cet homme est probablement resté à l'hôtel pendant plusieurs jours. Et le Samaritain était prêt à sacrifier. Ça lui a coûté en termes de temps, en termes d'argent, et peut-être en termes de réputation. Lorsqu'on a su qu'un Samaritain a donné de l'aide à un Juif, oula, mais qu'est-ce qu'on va penser de moi? J'aide les Samaritains, j'aide ceux qui me ressemblent. J'aime ceux qui vont bien, j'aime ceux qui peuvent me rendre l'appareil. Mais quand il s'agit de gens qui ne sont pas aimables, quand il s'agit de gens qui ne peuvent rien faire pour moi ni pour eux-mêmes, suis-je aussi prompt à aider, à donner de mes ressources, à donner de mon temps? Suis-je prêt à sacrifier? Si je veux manifester concrètement l'amour de Dieu aux autres, je le serai. Vous l'avez remarqué au verset 33, cet homme était ému de compassion. Et voilà pourquoi il faut se laisser remplir par l'amour de Dieu. Alors, verset 37, nous arrivons à la fin de ce passage. Et Jésus, il raconte cette histoire. Et c'est tellement flagrant. Mais il pose la question quand même. Parce que souvenons-nous la question. La question, c'était, qui est mon prochain ? Et cette question posée parce que le docteur de la loi voulait se justifier en disant, bon, mon prochain, c'est celui que j'apprécie. Mon prochain est celui que je choisis, qui mérite que je l'aide, que je l'aime. Et Jésus veut corriger cette lignée de pensée. Et au verset 36, Jésus, alors qu'il connaît déjà la réponse, alors que c'est tellement flagrant, il pose la question, lequel de ces 3 te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu des brigands? C'est tellement évident. On raconte cette histoire et on pose cette question à la fin, qui va répondre autrement que ce que le docteur de la loi a répondu? Il est évident que le Samaritain était le prochain. Il a manifesté l'amour, il s'est donné, il s'est dérangé pour cet homme. Il a sacrifié. Et verset 37, sans utiliser les paroles de Jésus, il dit « c'est celui qui a exercé la miséricorde envers lui ». Donc il dit pas « c'est le Samaritain ». Non, 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 il veut pas reconnaître cela. Mais il est obligé quand même de reconnaître que c'est cet homme qui a exercé la miséricorde. Et à la fin, Jésus lui dit, va et toi fais de même. Et 2 choses ici verset 37 nous montre que il faut prendre la décision. Comment est-ce que je vais concrètement manifester l'amour envers les autres? Ben, il faut que ça commence avec une décision. Ça vient pas juste tout seul. Je peux avoir la meilleure volonté au monde. Si je ne prends pas une décision, rien ne se passera. Et ici, Jésus met cet homme devant un choix. Il dit, tu dois prendre une décision. Reste dans ton indifférence, reste dans tes études, ta connaissance intellectuelle, reste tel que tu es, ou bien faire autre chose. Suis ce que moi je te dis. Il faut prendre une décision, il faut faire un choix. Et cet homme, ce docteur de la loi, à ce moment-là, était devant un choix. Tout comme l'homme riche qui était venu vers Jésus en disant à peu près la même chose, qu'est-ce que je dois faire pour hériter la vie éternelle? Et Jésus lui dit un ensemble de choses. Il dit, ben, tout ça, je l'ai fait. Jésus lui dit, va, vends tout ce que tu as, viens, suis-moi. Et cet homme-là avait un choix. Est-ce que je reste attaché à mes richesses ou est-ce que je m'attache à Jésus? Et ce docteur de la loi, pareil, est-ce que je reste attaché à mon indifférence, à mon amour propre, ou est-ce que je choisis de suivre Jésus, de manifester son amour? Et aujourd'hui, nous sommes devant un choix. Nous connaissons tous les gens envers lesquels nous pouvons manifester l'amour. Et cela peut prendre différentes formes. Passer du temps avec quelqu'un, l'aider financièrement, l'aider matériellement, l'aider spirituellement, se donner pour quelqu'un. Nous connaissons tous quelqu'un qui a besoin de nous. Et à ce moment-là, nous sommes devant un choix. Est-ce que je vais continuer tel que j'ai toujours fait, tel que j'ai toujours été, ou est-ce que je vais changer? Je suis devant un choix. Chacun de nous est devant un choix. Et c'est comme Jésus dit à nous, eh ben, qui est le prochain? Et pouvons-nous répondre, ben, moi, je le suis, parce que j'ai agi comme le Samaritain. Mais non seulement il faut prendre une décision, il faut passer à l'action. Prendre la décision, c'est très bien et c'est le début de ce qu'il faut, mais ce n'est pas la finalité. Non, il faut passer à l'action. Les derniers mots de ce verset 37, Jésus lui dit, « Va et toi, fais de même. » Va et toi, fais de même. Et Luc ne nous dit pas ce qu'a fait ce docteur. J'aimerais croire que cet homme a compris qu'il devait changer à la fois d'attitude et d'action, et qu'il est sorti et qu'il a commencé à faire le bien autour de lui. J'aimerais croire cela. Mais vu son attitude au début, je crains qu'il est resté tel qu'il était. Qu'il est resté dans son amour propre, qu'il est resté avec tout simplement sa connaissance intellectuelle, ses bonnes réponses, sans aucun autre changement. Et aujourd'hui, nous sommes devant ce choix. Et ce que Jésus a dit à cet homme, il le dit à nous. Allez, faites de même. Allez faire du bien. Allez aider ceux qui ne peuvent pas s'aider eux-mêmes. Allez aider ceux qui peut-être ne le méritent pas. Allez aider ceux qui sont peut-être dans des situations complexes et graves à cause de leurs propres mauvais choix. Allez aider ceux qui ne peuvent pas vous le rendre. Allez donner de votre temps. Laissez-vous déranger. Soyez prêts à sacrifier. Nous avons tant d'occasions autour de nous. Même dans un pays civilisé, prospère, comme la France, il y a des gens qui sont dans le besoin. Déjà dans notre église, Il ne faut jamais négliger de faire le bien les uns envers les autres. Mais au-delà des quatre murs de ce bâtiment, au-delà de ce petit groupe qui compose cette église, sommes-nous prêts à manifester l'amour? Sommes-nous prêts à ressembler à ce Samaritain? Ou est-ce que nous allons rester tels que nous sommes, comme ce docteur, voulant nous justifier en disant « je ne peux pas pour un ensemble de raisons ». J'ai toutes les bonnes réponses, mais cela n'agit pas dans ma vie. Ça, c'est le docteur de la loi. Je vais me laisser déranger, je vais sacrifier, je vais manifester l'amour de Dieu. Ça, c'est le Samaritain. Lequel suis-je aujourd'hui? Je sais lequel Dieu veut que je sois. Je sais lequel je veux que les autres pensent que je suis. Je veux que les autres pensent que je suis comme le Samaritain. Mais s'ils devaient examiner ma vie, est-ce qu'ils voient plus le Samaritain ou plus le docteur de la loi? Et quand Dieu, avec son regard perçant, qui pénètre jusqu'au cœur, lorsqu'il regarde, est-ce qu'il voit plus le docteur de la loi ou le Samaritain? Qui est mon prochain? Mon prochain est n'importe qui est dans le besoin qui est autour de moi. Et que puis-je faire? Que puis-je faire aujourd'hui? Dieu me donne l'occasion aujourd'hui. Un jour, ce sera trop tard. Mais je peux agir aujourd'hui. Est-ce que je vais le faire? Est-ce que je vais obéir à ce commandement? Va, fais de même. Voilà ce que Dieu veut. Il faut prendre la décision. Et après, il faut passer à l'action. Je veux le faire. Dieu veut que nous le fassions. Maintenant, à chacun, individuellement, de prendre cette décision de faire ce que Dieu veut. Prions, s'il vous plaît. Oui, Seigneur, nous sommes devant toi et nous reconnaissons la vérité de ta parole. Nous savons ce que tu attends de nous. Nous connaissons les bonnes réponses. Notre esprit est rempli de ta parole. Et nous voyons ce que tu veux que nous fassions. Que tu nous aides, Seigneur, à prendre la bonne décision, à faire le bon choix. Nous avons besoin de ton aide pour le faire. Nous sommes faibles en nous-mêmes. Nous sommes égoïstes. Nous pensons à nous-mêmes trop souvent. Et Seigneur, donne-nous d'agir comme ce Samaritain. Donne-nous d'aimer comme toi, tu nous as aimés. Aide-nous à manifester cela autour de nous, sans penser aux conséquences, sans arrière-pensée, Seigneur, que tu nous animes de cet amour et que ceux qui nous entourent puissent nous voir, qui reconnaissent que c'est toi qui agis à travers nous, à cause de cet amour, et que tu sois exalté, que nous soyons connus comme les gens qui se donnent parce que tu as tout donné pour nous, et que tu reçois tout l'honneur et toute la gloire pour ce que tu vas faire et ce que tu veux faire à travers la vie de chacun d'entre nous. C'est en ton nom que nous prions. Amen.